que s'il y a révélation, la tradition juive affirme qu'il y a eu, eh bien, elle a eu lieu en direct aux Hébreux. Et elle a été entendue en écho par les autres nations. Il y a donc, j'emploie un langage de télévision, mais de radio, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a eu, donc une certaine convergence entre une parole qui voulait être écoutée et une oreille qui savait écouter. Une sorte de connivence, je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que j'ai dit, complaisance oui, enfin, c'est parce que ça plaît réciproquement, si vous voulez, entre l'identité hébraïque et la révélation du Créateur.
Je veux dire.
Donc, Derech Asher, la voix que Dieu propose à celui qui l'écoute pour réussir la conduite de l'histoire en tant que créature. Mais entendez bien la deuxième lecture qui est plus profonde et d'ailleurs première du point de vue de la traduction, Pshat, c'est Derech Hashem, la voix VOIE de Dieu lui-même dans ses rapports avec l'homme. Et là, comme nous allons le lire, ça nous est dit de façon très claire qu'il s'agit, à partir de l'expérience de la foi d'Abraham, d'arriver au niveau de la conduite selon la loi morale. Et vous voyez que dès le début, nous sommes vraiment très séparés de ce dont les chrétiens vont parler en parlant des mêmes choses. Alors, bien entendu, nous allons avoir mardi un langage très courtois, vous avez compris, mais en tout cas, essayez d'entendre la différence, bien que nous allons tous les deux parler français, quoique le père Dupuis comprend l'hébreu. Alors, vous voyez, cette histoire de fou dans laquelle on va se trouver mardi.
Mardi, je vous demandais.
Oui, pardon.
Vous avez dit que la terre est dite en direct en hébreu, aux hébreux et en différé aux autres nations, mais en quelle langue aux autres nations?
Bien, dans leur langue, à une condition. Vous avez entendu la question?
Non.
Je répète la question. C'est David
oui.
Qui a demandé que la révélation a eu lieu en direct aux hébreux et en hébreu. Et ça, je voudrais qu'on se le rappelle toujours. Premièrement, il s'agit de l'identité hébraïque. Et alors, les autres nations l'ont entendu en différé. Par exemple, ce Midrash qui nous dit qu'au Sinaï, les 10 commandements ont été formulés simultanément en Lachon HaKodesh, en hébreu, de sens prophétique pour les hébreux, et simultanément dans les Shivim Lachon, c'est-à-dire dans les 70 langues des 70 nations de base. Là, je vous donnerai une référence pour donner cette réponse. La question a été en quelle langue pour les autres nations? Et j'ai répondu dans leur langue propre. Dans leur langue propre, mais à quelles conditions? D'abord, c'est que leurs langues propres sont entendues de façon authentique. Safa Brura, hein, une langue épurée. Je donne un exemple. Si on devait faire une traduction du texte biblique en français, dans le français de qui la traduction serait authentique? Si c'est le français d'André Chouraki, c'est pas le français de la Bible seconde, qui n'est pas non plus le français de la Bible du rabbinat, ou de la Bible de Bob, ou de la Bible, etc. Vous comprenez d'abord dans quel français? Parce que de l'hébreu de la Bible, il y en a un seul. Mais à quelles conditions? Là, je vous donnerai une référence, c'est dans le verset 5 du premier chapitre de Devarim. Quand Moïse, au début du livre de Deutéronome, la Torah nous dit que Moïse a commencé à expliquer la Torah. Roïl, Moshe, Be'er et Torah. Le terme de l'évaer, expliquer, élucider, éclairer, faire comprendre, dévoiler, l'évaer. Hein? Alors Rashi cite un midrash qui dit Beshivim Lachon, que Moïse a expliqué dans la répétition de la Torah du cinquième livre, que Moïse aussi a expliqué d'emblée en 68 langues. Alors voilà quelle est la condition et la règle. Si c'est l'hébreu qui explique à un membre d'une autre nation, dans sa langue à lui, ce que veut dire la Torah, il y a une chance que ce soit authentique. Mais si c'est le membre de cette nation qui traduit l'hébreu dans sa mentalité, c'est sûrement un autre livre. Vous avez compris ce que je veux dire? Et la condition est très simple. Okay? C'est ce don des langues que le christianisme va assumer, d'ailleurs je crois dans la fête de l'Assomption, à sa manière, ce don des langues était attribué à Joseph. Okay? Vous rappelez les Midrashim concernant les capacités de Joseph. Joseph était capable de parler toutes les langues. Dans le monde juif, c'est une petite indication sociologique qui m'a beaucoup frappé. Je crois que ce Joseph-là est sûrement d'origine russe, dans le temps contemporain, parce que les juifs russes ont une capacité joséphine de traduction des langues dont vous n'avez aucune idée. Enfin, alors, vous avez idée certainement si vous fréquentez des russes, des juifs russes. Vous voyez l'importance des juifs russes dans tout ce qui se passe de notre temps. Joseph, pour ceux qui entendent ce qu'il y a derrière, vous comprenez. C'est clair ce que je dis? Par exemple, M. Levinas, j'étais toujours émerveillé de sa capacité de sa, c'est pour ça qu'il est français d'ailleurs, mais de sa capacité de maîtriser les langues. Avec une finesse dans chaque langue, extraordinaire. Bon, je referme la parenthèse de Joseph. Le midrash auquel je fais allusion est très connu, lorsque finalement on a dit au pharaon, mais il y a dans la prison un explicateur de rêves, alors il va t'expliquer tes rêves, vous vous rappelez de cela? Alors, on amène Joseph devant le pharaon, et les sages de l'Égypte demandent au pharaon, mais enfin, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Alors le pharaon répond dans le midrash, il connaît les langues, donc il peut parler la Torah aux hommes des autres nations. Et c'est effectivement la vocation de Joseph en tant que tel, d'une façon générale. Bien. Et alors voilà donc quelle est la clause. Moïse peut dire dans une autre langue, de façon authentique, ce que Dieu avait dit à tous les hommes, même pas hébreux. Il y a là une médiation de l'hébreu, mais que seul l'hébreu peut maîtriser. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? C'est-à-dire l'entreprise de la traduction d'un texte traditionnel, en hébreu en particulier, mais par le génie d'une langue extérieure qui projetterait ces catégories sur le texte hébreu pour ensuite les dire dans la langue en question, ce n'est pas une traduction, c'est une trahison, comme disent les Italiens. Vous connaissez le pidgame d'Alki. Alors, c'est clair le point. Donc, revenons donc à notre problème. Puisque Abraham l'hébreu est apparu, a émergé dans l'histoire, alors la révélation du Derech Hashem peut se faire, et vous voyez, on se raccroche à ce qu'on a étudié vendredi matin, ce n'est plus Derech Elohim, mais Derech Hashem. Il peut y avoir un Derech Elohim authentique, mais c'est une sagesse authentique, une conduite authentique, mais au niveau de l'être de nature, de ce qu'on pourrait appeler en français. C'est une expression qui n'a pas de correspondance très exacte en hébreu, mais je le dis quand même en français, c'est que c'est une morale naturelle, mais une morale naturelle authentique. Mais on reste dans le conditionnement de l'être de nature, et à la limite, une sagesse de ce genre, vous rappelez du texte du Midrash de vendredi, serait plutôt de type astrologique que prophétique. Vous vous rappelez de ça? Bien. Et c'est de cette astrologie-là qu'Abraham est arraché lorsque Dieu lui dit « Vayetse oto achutsa ». Que Dieu a fait sortir Abraham en dehors du conditionnement du monde pour le faire accéder à Derech Hashem, au-delà, plus haut que Derech Elohim. Et voyez pourquoi en hébreu traditionnel on ne peut pas employer le mot de Dieu, parce que nous ne savons jamais de quoi parle l'interlocuteur. Est-ce qu'il parle du niveau Elohim, c'est-à-dire la volonté du Créateur au niveau des conditionnements naturels? Et là, il peut y avoir un monothéisme authentique d'un Dieu unique au niveau unicité, et que nous retrouverons très familièrement dans l'islam. Ou bien est-ce qu'on parle de celui qui est ce que l'on appelle Dieu, Hachem ou Elohim, et cette révélation à la volonté de Hachem, c'est le problème de la particularité de l'histoire des Hébreux. Et lorsque les Goïms traduisent le nom du Dieu des Hébreux qui est Hachem dans le mot Dieu, eh bien, déjà le malentendu est arrivé. Est-ce que c'est clair? On a substitué une notion philosophique de la divinité à Hachem, celui qui est ce que vous dites Dieu, ce que vous appelez Dieu. Mais comme c'est difficile d'arriver à s'expliquer là-dessus, et c'est pourquoi, de nouveau, je reprends cela, que tant que on n'étudie pas en hébreu, pas grande chance de comprendre de quoi l'hébreu parle, et c'est pourquoi je me félicite des cours que donne j'allais dire Joseph, le docteur Prince. Et je vais en parler d'ailleurs à la fin du séminaire, du programme de l'année prochaine, parce que ça vous donne la possibilité et l'occasion de pouvoir lire du point de vue de l'hébreu traditionnel. Bien, je referme la parenthèse, mais elle était importante. Et alors, voilà pour cette notion de Derech Hashem. Quel est le moment historique où nous nous trouvons dans le récit et qui est assez important? C'est à la fin du chapitre 17, de la Genèse, on nous raconte l'alliance de la circoncision. Et cette alliance de la circoncision, à travers Abraham, est très importante, parce que c'est là que va être scellée, si j'ose dire, d'ailleurs c'est le sceau de la Brit Mila, la mutation d'identité d'Abraham en Abraham, le fait que Abraham peut être fécond de Yitzhak et pas seulement enfant d'Ishmaël, okay, vous suivez l'analyse, et là nous voyons, à partir du début du chapitre 18, une accélération des événements extrêmement importante. Il y a ça que je vais vous décrire, et à ce moment précis que nous avons l'expression de notre verset où Hachem va révéler Derech Hachem à Abraham pour sa descendance. Et c'est là que va apparaître le problème de l'ordre des notions, d'abord la foi, ensuite la loi. Voilà, c'est clair ? Bien, alors vous retiendrez l'étude de ce matin. Pour mardi soir, ça vous aidera beaucoup, vous verrez à quel point ce sera difficile d'en parler au niveau conférence, mais là il y a un point très précis, c'est-à-dire, pour donner un autre titre, si vous voulez, à l'étude, c'est que d'emblée nous sommes avertis qu'Abraham annonce Moïse. C'est bien clair. La raison pour laquelle la loi explicitée, la Torah du Sinaï, n'est pas déjà donnée à Abraham lui-même, c'est un autre problème, si vous voulez, on peut l'étudier tout à l'heure, vous laissez provisoirement ça de côté, mais on voit que l'ordre de l'enseignement est très clair. D'emblée, Abraham annonce Moïse. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, avant d'aborder l'étude du texte, puis on distribuera les autres. Quelqu'un peut faire en attendant ? Oui, vous avez deux pages, vous en prenez une dans le monde. Alors, je continue de l'exposer, vous le reposerez après sur les castels. C'est le moment des événements auquel nous nous trouvons. Donc, fin du chapitre 17, faites semblant qu'il ne se passe rien là. Fin du chapitre 17, il y a l'alliance de la circoncision. Juste après, dès le début du chapitre 18, il y a la scène où Abraham se dévoile comme étant le juste de la vertu de charité. C'est la scène de l'hospitalité, sur laquelle je ne reviens pas en détail, simplement je vous l'indique pour vous. Et vous vous rappelez, dans cette scène de l'hospitalité, et je reposerai tout à l'heure le vocabulaire, comment Arnasat Orshim, Vunit Rasadim, l'hospitalité, c'est le dévoilement du juste de Midat Ahesed, du juste de la vertu de charité. Et nous étudierons d'ailleurs tout à l'heure un ouvrage qu'on est en train de distribuer sur ce problème. Alors à ce moment-là, Abraham est confirmé dans son identité d'Abraham. Et les événements s'accélèrent. Alors que jusque-là, Sarah ne pouvait pas enfanter le juste de l'étape suivante, voilà qu'un des anges de la scène de l'hospitalité lui annonce qu'elle enfantera. C'est la scène du rire, parce que tout se dénoue. Et en même temps, il va nous être annoncé que la civilisation de Sodome et Gomorre va être jugée. Et en même temps, troisième message à travers les anges, et séparation entre Ishmaël et Yitzhak. Alors je vais me borner, si vous voulez, à l'introduction de la scène du jugement de Sodome et Gomorre, qui fait l'objet de notre verset, mais je voudrais vous expliquer cette accélération des événements. C'est-à-dire, jusque-là, il y a une longue attente. Et puis, qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'Abraham devienne Sira, qu'Abraham devienne Abraham. Mais dès qu'Abraham devient Abraham, tout se déclenche de façon très accélérée. Vous verrez dans toute cette paracha de Vaera, qui commence, Sira de Vaera, qui commence au chapitre 18, les événements s'accélèrent énormément. Que se passe-t-il là ? Eh bien, tant que Abraham est encore Abraham, toutes les approximations de ce que j'appellerais le tzaddik dans l'humanité sont en sursis. Dès que la mutation d'identité fait que c'est Abraham qui est le tzaddik, qu'on a émergé à un niveau de vertu au-delà, alors tous les contemporains vont être jugés. Il y a un contraste qui apparaît entre l'authenticité d'Abraham et les approximations du tzaddik qui étaient en sursis jusque-là. Tant qu'Abraham n'est qu'Abraham, ça protège les autres dans la catégorie du sursis. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer ? Mais dès qu'Abraham émerge dans son identité justifiée, entre guillemets, de tzaddik confirmée, alors se déclenche le jugement de la génération d'Abraham. On va un peu analyser cela, mais je voudrais d'abord que le principe soit clair. Et alors, comment ça se traduit? Bien, Sodome et Gomorre, nous apprenons immédiatement que c'était une société corrompue. Et pourtant, elle était en sursis. Dieu la laisse exister jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le jugement soit possible. C'est-à-dire, le jugement n'est possible que si, par contraste, le tzaddik authentique est là. Alors, ça disqualifie la consommation. Est-ce que c'est clair, l'idée? Et nous verrons que c'est une des causes de l'antisémitisme. Je vous donnerai, ouais, ça a l'air paradoxal, mais je vous donnerai quelques illustrations à ce sujet. Et puis, Ishmaël, qui jusque-là pouvait lui aussi, à sa manière, être une approximation de ce que l'on attend avec Yitzhak, Ishmaël va être disqualifié, Yitzhak va naître, et Ishmaël sera séparé d'Yitzhak, etc. Est-ce que je suis arrivé à exprimer cela? Cette accélération des événements, cristallisation des événements au moment où Abraham est authentifié dans sa vertu propre, le tzaddik selon Abraham est advenu, alors par contraste le jugement va frapper toute la génération. Quelle est l'idée qu'il y a là? Eh bien, c'est qu'effectivement, tant que l'on est dans une certaine étape du cheminement de l'identité humaine, toutes les approximations sont en sursis. À partir du moment où la mutation se fait quelque part, alors tout le reste qui était en sursis et rejeté dans une sorte de préhistoire et de jugement. Tant qu'Abraham n'est pas là, on ne peut pas juger Sodome et Gomorre. Mais dès qu'Abraham est là, cela précipite le jugement de Sodome et Gomorre. Voilà quel est le contexte historique dans lequel notre verset va apparaître. Alors, c'est un thème extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure un peu rapidement, ça explique l'antisémitisme. Vous avez compris pourquoi je suis. Si Israël apparaît, alors il y a réaction de frustration, de fascination et de haine simultanément de la part des autres. Okay. Et tant que cette réaction de frustration n'est pas évacuée, alors on ne peut pas encore penser la solidarité entre Israël et les autres, puisque Israël apparaît comme émergence avancée pour faire avancer les autres. Vous vous rappelez Ivri, que ça veut dire Ivri, l'hébreu, le passeur dans cette lecture-là. Ou si vous voulez, le thème qu'on avait étudié l'année dernière, Béni Bechori Israël, Israël est appelé par le texte mon fils aîné, Béni Bechori, ça veut dire que les autres aussi sont des fils, puisque celui-là est appelé que le fils aîné. Les autres aussi sont des fils. Vous avez compris le problème. Okay. C'est-à-dire, et ça explique pas seulement d'ailleurs l'antisémitisme, mais dans la société occidentale, un phénomène plus général, dont une des illustrations, c'est tout simplement l'anticléricalisme. Dans la société occidentale, on a reporté aussi sur l'ecclésiastique celui qui apparaît comme étant le tzaddik avancé, l'homme du salut, cette espèce de relation qu'en général l'humanité a eue vis-à-vis du peuple juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors oui, là nous sommes en présence d'une scène extrêmement importante. Abraham pressent d'une certaine manière que son élection, entre guillemets, pour employer le terme qui avait été employé vendredi par quelqu'un qui était au fond de la salle mais qui n'est pas là, que son élection va disqualifier les autres. Et alors il plaide jusqu'au bout pour ces autres qui sont disqualifiés à cause de lui. En réalité, non, ils sont disqualifiés à cause de leur conduite. Mais le moment du jugement apparaît parce que Abraham a avancé dans l'ordre de la vertu. Je voudrais vous donner un exemple que nous avons dans l'histoire d'Israël du temps de la sortie d'Égypte, la génération du désert. Lorsqu'il y a la querelle de Korach contre Moshe, ça vous dit quelque chose?
Cette semaine.
Et on va lire ça cette semaine. Donc, d'abord, Baïto. Et alors, on voit bien que Moïse demande le jugement de Dieu. Qui a raison? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Korach? Je n'entrerai pas dans le contenu de la querelle, peu importe, mais vous connaissez l'histoire. À un certain moment, il y a une rivalité contre Moïse, qui est la tête de la révolte est prise par un des grands de la tribu de Lévi, qui s'appelle Korach, en hébreu, Corée en France. Je ne sais pas si c'est la Corée du Nord ou la Corée du Sud. Et alors, à un certain moment, puisqu'il est concerné, Moïse demande que Dieu tranche. Et on voit que Dieu intervient, et Korach est disqualifié. Alors tout le peuple se retourne contre Moïse en lui disant « Tu veux notre mort ?» C'est assez difficile à comprendre. Le peuple entier a assisté au fait que c'est Moïse avait raison. Que c'est Moïse qui avait raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à côté de toi, Moïse, nous sommes tous disqualifiés. Et alors tu es dangereux pour nous. Vous voyez à peu près le problème. Alors c'est un peu cela qui apparaît avec l'identité Abraham, qui lorsqu'elle est confirmée dans son derrière propre, disqualifie ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comment la Torah nous enseigne dans un cas limite, qui avait sursis sur Sodome et Gomorre. Abraham apparaît, Sodome et Gomorre est jugé. Qu'est-ce qu'on attendait ? Donc qu'Abraham apparaisse. Mais vous voyez l'ambiguïté. Abraham est celui qui pourrait sauver sa contemporanéité, mais qui la disqualifie par sa propre présence. D'où l'antisémitisme, déjà, dès qu'Abraham apparaît. Vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Voilà, c'est clair jusque-là. Donc, vous avez une question.
La génération du déluge aussi a été jugée alors qu'elle avait, elle, un sadique à propos de la vie.
Qui était lequel ?
Noir.
Plus que Noir, mais touchez-la. Je crois que vous avez. Nous sommes complètement d'accord. Mais là, c'est une autre occurrence, si j'ose dire. C'est là que le temps du sursis ultime était arrivé. Alors que, ici, nous voyons que, tant qu'Abraham n'est pas Abraham, peut-être que la société de Sodome et de Gomorre peut être encore en sursis, parce que d'une certaine manière très ambiguë, elle est protégée par une approximation d'Abraham qui s'appelle Lot. Et qui aussi, dans Sodome et Gomorre, parle de Mishpat, parle de jugement, de justice. Vous voulez que je vous parle un peu de ce problème? Nous en avons parlé jeudi soir. Okay. Vous vous rappelez, Lot est une sorte d'approximation d'Abraham. Mais qui préfère jouer son rôle de l'être frère, de porteur, de témoin de la fraternité possible dans la société humaine, ou précisément dans cette société corrompue de Sodome et de Gomorre? Et là-bas, il apparaît comme étant le chauffeur, le juge au nom des principes de la justice. C'est, si vous voulez, la comparaison est très schématique, encore une fois, mais la notion du droit légal substitué à la notion de la morale comme constitution. Abraham, son mishpat, c'est celui de la moralité. Lot, c'est celui du droit, de la légalité. Et la légalité n'est pas forcément la moralité. Vous voyez quel est le problème? Et alors, cette société-là a ses propres juristes, a ses propres hommes du droit, un peu comme la société romaine, si vous voulez, qui a formulé la règle du droit pour une civilisation donnée. Mais nous savons très bien que le droit romain, c'est pas la loi morale. C'est ça qu'il faut découvrir. Enfin, le refus de l'hébreu par rapport à Rome, c'est cela. C'est le refus de la substitution du droit à la moralité. Et regardez la malignité du langage. Cette légalité s'appelle en français le droit. Derech Hayashar. C'est-à-dire le chemin de rectitude, la droiture. Imaginez à quel point nous sommes enveloppés dans la farine 14 fois. Okay. Je pense que c'est clair. Okay. Et là, alors c'est ça ce qui se passe avec Sodome et Gomorre, qui est protégé par Lot et son droit. Mais vous savez que c'était le droit de Sodome et Gomorre. Okay. C'était une ville où dès qu'un étranger arrivait, on lui donnait un billet de chemin de fer pour aller plus loin. Quelle charité! Quelle charité! Vous avez compris? Le contraste avec la vertu d'hospitalité selon Abraham, qui elle est morale, alors que chez Sodome et Gomorre, elle était légale. C'était une société sans pauvres. Parce que dès qu'un pauvre arrivait, on lui donnait l'adresse du bureau de bienveillance de la ville d'à côté. Et on avait assuré donc les frais de son voyage. Ah non, mais je dis ça comme ça parce que vous savez que dans la société contemporaine, ça arrive beaucoup. Tu es réfugié, alors c'est l'adresse, c'est après, l'étape d'après. Ken?
Tu nous as parlé souvent, il y a plusieurs années, de l'hospitalité des peuples d'Islam.
Oui.
Et tu disais toujours qu'il n'a pas vécu en pays arabe, donc je ne sais pas ce que c'est
que l'hospitalité de l'Islam.
Ah,
tu as bien sûr.
De l'Islam.
Attendez, je marque ça pour ne pas l'oublier, j'en parlerai tout à l'heure. Vous me rappellerez, je parlerai de ça. Voilà donc quel est le problème. L'apparition d'Abraham va déclencher, par contraste, le jugement de disqualification de ce qui l'entoure. Voilà, ça va jusque-là, donc nous pouvons prendre notre verre. Alors je vais vous indiquer comment ça marche avec le texte. Vous avez d'abord ce texte-là, comme ça. Hein. Il n'y en a pas eu un comme ça? Il n'y en avait pas suffisamment, je pense.
Non, on n'en a pas eu, nous.
On ne sait pas rien, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Et vous, écoutez, vous avez un texte en colonne. Bon, alors je vais vous dire pourquoi. On a besoin du dernier mot de ce passage, qui est le premier mot du texte qu'on va étudier, et ensuite, non, en hébreu, et ensuite, le dernier mot du deuxième passage, qui est le dernier mot du texte qu'on va étudier. Comme il manquait deux mots, on vous a fait ça pour que vous ayez les deux mots. Donc, ça, l'autre texte, en carré, c'est le midrash qu'on va étudier comme illustration. Mais d'abord, nous allons prendre la première page qu'on vous a distribuée, le texte en deux pages. Ça y est, c'est clair ? Bon. Alors, je vous donne la référence. C'est le chapitre 18 à partir du verset 17. Alors, juste après cette scène où Abraham, confirmé dans sa vertu, reçoit la visite des anges dans cette scène de l'hospitalité, et premièrement, il lui est annoncé qu'enfin, Sarah pourra enfanter. Que le juste de la deuxième étape des valeurs morales, le juste qui est Yitzhak, va pouvoir apparaître d'Abraham. Jusque-là, il y avait blocage. Alors, une révélation est donnée à Abraham, que je vais commencer à lire à partir du verset 17, suivi mot par mot, et Vachem, Nahon, Vachem Amar Amchase, Ani, Me Abraham, Asher, Ani, Osni. Le début du verset, vous l'avez dans la première page là-haut. Hein?
C'est le verset 17 ?
D'accord, 17. Et la suite du verset dans la page... celle-là. Vous y êtes ? Ça y est ? Top. Alors voilà ce que dit le verset. « Hachem amar » Et Hachem dit « Amchase ani me Abraham » Est-ce que je vais cacher d'Abraham « Asher ani osé » ce que je fais ? C'est-à-dire la manière dont j'interviens dans l'histoire du monde. De quoi va-t-il s'agir ? L'intervention de Dieu pour juger Sodome et Gomorrhe. Okay. Et vous rappelez, cela est provoqué par le fait que le tzaddik étant apparu, le temps du jugement est apparu. Peut-être je reviens un peu sur cette idée, c'est la notion de jugement dernier. La notion de jugement dernier, c'est qu'est-ce que l'on attend pour que l'histoire soit jugée ? Est-ce que l'on n'a pas suffisamment d'éléments pour porter un jugement sur l'histoire humaine ? Pourquoi cette notion de jugement dernier est... ça, qui est renvoyé au dernier des jugements. Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique ce sursis ? La première raison très générale, qui ne fait pas partie de notre sujet, c'est que pour qu'une identité soit jugée, diagnostiquée, identifiée, alors il faut que tout ce qu'elle avait en potentiel se dévoile dans la réalité pour que l'on sache vraiment qui elle est. Tant que c'est en potentiel, c'est ambigu, c'est ambivalent. Toutes les bifurcations sont possibles. Ce n'est qu'à la fin d'une histoire qu'on sait ce qu'il y avait au commencement. C'est clair. Ça, c'est la raison d'ordre général. Maintenant, d'autre part, je me rattacherai à un enseignement de la Gemara de Sanhedrin qui parle de cela. Un jugement ne peut être fait que lorsqu'il y a effectivement contraste suffisant entre l'homme du bien et l'homme du mal. Tant que, au niveau de l'individu, c'est mélangé, qu'on est à la fois bien et mal, le jugement ne peut pas se faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Un jugement qui séparerait les bons des méchants, un peu manichéen comme ça, n'est possible que si effectivement on a d'un côté un homme qui est tout entier bon et de l'autre côté un homme qui est tout entier méchant. Si on a un méchant qui est un peu bon et un bon qui est un peu méchant, le jugement ne peut pas se faire. C'est ce à quoi fait allusion la Gemara de Sanhedrin en disant que le Messie ne peut venir, alors je traduis, le jugement ne peut se faire que dans une génération tout entière juste ou tout entière méchante. Tout entière, c'est Bédor Shekulo Chayav ou Bédor Shekulo Zakai. Tout entière coupable ou tout entière innocente. Ça, c'est la lecture générale et habituelle de la formule. Si vous voulez, je vous l'expliquerai après, par la suite, mais pour me rattacher à notre sujet, ça veut dire une génération d'hommes où chacun est tout entier coupable ou tout entier innocent. Tant qu'on est... mélangé, le jugement ne peut pas se faire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu es disqualifié, s'il y a encore en lui une part de mérite. Je ne veux pas dire à quelqu'un d'autre, tu es confirmé, s'il y a encore en lui, une part de démérite. Vous voyez pourquoi le jugement est difficile à faire. Dans ce cas-là, nous avons un exemple privilégié. Le contraste va apparaître. Oui, les gens de Sodome et Gomorre sont des Rechaïm, et comment on le sait? Parce qu'Abraham n'est pas l'autre. Parce qu'Abraham est Abraham, parce qu'Abraham est tzaddik, alors il apparaît que les gens de Sodome et Gomorre sont des Rechaïm. Jusque-là, ils étaient en sursis. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est suffisamment clair. Alors, vous voyez comment la Gemara l'indique. Le pshat de ce que je vous ai cité, El ben David ba Ela Bedor Shekulo Chayav ou Bedor Shekulo Zakai, a un autre sens. Ça veut dire, du point de vue de la halakha, une génération est jugée suivant, c'est difficile à dire parce que c'est pas numérique, c'est plutôt qualitatif, suivant la majorité du mérite ou du démérite. Une génération coupable, ça veut dire une génération qui est plutôt coupable que innocente. Une génération innocente, enfin je veux dire vertueuse, c'est plutôt vertueuse que les filles rovamas. Mais c'est pas compter les mérites, c'est peser. C'est l'image de la balance du jugement. Okay. Donc c'est un peu au niveau qualitatif et pas au niveau quantitatif. Mais il y a cette explication que je viens de vous citer, c'est que le jugement n'est possible qu'à la fin des temps. Jusque-là, il y a sursis. Et que le jugement n'est possible que si on peut caractériser un tel est sadique, un tel est rachat. C'est clair. Or, ce jugement-là n'appartient qu'à Dieu, puisqu'il s'agit de confronter la réalité à son projet de vérité. Donc ce jugement-là n'appartient pas à l'homme. Mais si nous avons un enseignement qui nous illustre bien ce principe, Abraham est vraiment Abraham, alors le temps est venu de juger Sodome et Gomorre. Par exemple, ce que disait ce verset. Rachem Amar, à ce moment-là, Dieu a dit, Hachem a dit, Amchase ani, mais Abraham, Hachem ani osé. Est-ce que je vais cacher, je ne peux pas cacher d'Abraham ce que, la manière dont j'agis lorsque j'interviens dans l'histoire. Or, effectivement, un moment de jugement était arrivé pour cette civilisation de Sodome et Gomorre. Je veux vous indiquer à quel point il y avait méchanceté, suivant Rishrut en hébreu, à Sodome et Gomorre, parce que c'était une méchanceté camouflée par le droit. La société en question avait une légalité officielle, inattaquable, en justice, dans le sens de la légalité. Okay? Et puis, on s'aperçoit que c'était une contrefaçon de la vertu. C'est dans l'immoralité, dans l'impureté. Vous voyez ce contraste? Abraham, l'homme capable d'être frère, mais dans la pureté. Lot, l'homme capable d'être frère, mais dans l'impureté. C'est ça qu'il faut comprendre. Le critère de séparation, c'était la moralité. Et alors, le fait de substituer la légalité à la moralité, c'est la pire des immoralités. Je ne sais pas que comment vous dites ça. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point il faut se méfier de cette notion du droit lorsqu'on veut lui faire traduire ce que dit l'hébreu en disant Torah ou Mishpat.
Comme que les Romains, quand ils disent « Somme en juif, c'est exactement ça que ça veut dire.
Exactement. Bien sûr qu'ils ont présenté cela. Je vous dirai d'une façon générale. Je crois que toutes les traditions, surtout celles qui ont échoué, ont pressenti l'idéal de vérité qui s'est incarné chez les Hébreux, pour employer un mot chrétien. Okay? Mais ils y ont renoncé. Il y a une sorte de yéhouch. Comment on traduit ça, yéhouch?
Désespoir.
Désespérance. Okay? De désespérer, c'est pas praticable. C'est bien ça qu'il faudrait. Et alors on peut le décrire au niveau intellectuel. On a compris cela, la formule que vous avez dite, mais on ne peut pas faire autrement. Alors on renonce, et puis on substitue en réalité une légalité donnée au projet de la moralité. La place de l'hébreu dans cette histoire, c'est d'avoir systématiquement refusé cette désespérance-là et ce renoncement-là. Donc c'est clair. J'ai compris quoi. Bon. Et, par exemple, ce que dit la Mishnah de Tekeavot, Al-Ta'as Asmecha Ke'olche Adayani. Quand tu juges, ne prends pas l'attitude des avocats qui peuvent plaider sur n'importe quelle cause avec un brio légal absolu. Vous savez qu'est un avocat compétent. C'est quelqu'un qui peut faire innocenter un coupable ou accuser un innocent. C'est ça le génie de l'avocat. Non? Al-Ta'as Asmecha Ke'olche Adayani. Vous avez compris, Roller dit. Non, j'en veux pas du tout aux avocats. Hein. Justement, il est. il est évident que l'avocat maîtrise la logique affective et pas du tout une logique... quelle est la différence entre la logique du savant et la logique de l'avocat? La logique du savant ne sait pas ce qu'il va démontrer. Il le découvre. Tandis que l'avocat sait à l'avance qu'est-ce qu'il doit démontrer. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Bon. Alors disons qu'à Sodome et Gomorre, il y avait Lot qui représentait cette attitude-là. Il y a une expression en français, j'ai oublié d'où ça vient, le lit de Procuste, qui est le lit de la justice. Le lit de Procuste.
Lit de justice.
Le lit de justice. Je ne sais plus de quelle mythologie ça vient. Procuste. Voilà. Exactement. Eh bien, c'est exactement ce que le Midrash dit de l'hospitalité de Sodome et Gomorre. Quand un étranger arrivait, il y avait un lit standard. Il était plus petit que le lit. On lui partait les jambes et la tête pour qu'il arrive à coïncider au lit. Tu veux l'hospitalité, là voilà, il n'y en a pas d'autre. Et s'il était plus grand, on lui coupait les pieds. Ouais, c'est ça le lit de Procuste. C'était le lit de Mitat Sodome, ça s'appelle en hébreu.
Beaucoup de détails dans la traduction du Sefer Yashar qui vient de paraître. Beaucoup de détails sur le comportement des gens de Sodome.
Ah bon, oui, c'est une coïncidence.
Qui a édité le livre? C'est le Rocher.
C'est le sentier de Rick.
C'est une traduction qui est ancienne, c'est celle de Migne qui date de 1858, quelque chose comme ça, mais ça vient d'être réédité en très bon français. Très intéressant.
Eh bien, très bien, vous voyez. De notre temps, on n'avait pas ces livres-là. Vous êtes privilégié. Bien. Alors, revenons donc à notre problème. Premier verset, donc, « Amchase anime Abraham, cher Adam. » Vous voyez, quel est le principe qu'il y a là? Un juste de la vertu de chesed, de la vertu de charité, est apparu dans le monde. Mais il faut qu'il sache quel est le cheminement qui mène à la vérité morale. Cette vertu-là n'est que la première étape. C'est à Abraham qu'il faut dévoiler que la foi mène à la loi. C'est clair juste là. En quelque sorte, comme je l'ai dit jeudi soir à la conférence, Abraham va recevoir une leçon de moralité vraie au-delà de sa propre vertu qui est authentique, mais qui n'est que la première pierre d'un édifice, qui n'est que la première étape de tout un cheminement. Dieu va juger Sodome et Gomorre et il veut expliquer à Abraham pourquoi il juge Sodome et Gomorre. Je reviens sur cet exemple que j'ai donné jeudi soir, qui me semble très important. On se trompe souvent sur l'intention de ce récit. On croit que la Torah ici veut nous révéler ce que doit être la charité. En réalité, le récit veut nous expliquer ce que ne doit pas être. Et c'est là que je voudrais m'expliquer. C'est-à-dire une vertu de charité qui ne serait pas corollaire ou corrigée par la vertu de justice serait dévastatrice. Parce qu'une telle charité aboutirait à protéger n'importe quel crime, c'est-à-dire Sodome et Gomorre. Puisque pour qui plaide Abraham, l'homme de la charité? Précisément pour les criminels de Sodome et Gomorre. C'est la conduite authentique de la charité lorsqu'elle est exclusive. De plaider aussi et surtout pour ceux qui ne le méritent pas. Mais une telle vertu, si elle reste exclusive, serait dévastatrice. Et c'est pourquoi Dieu veut expliquer à Abraham pourquoi il ne sera pas charitable. Parce qu'il faut à ce moment-là être juste. Et Abraham entend donc qu'au-delà de sa propre vertu, et elle fonctionne bien, la vertu d'Abraham, imaginez un tel plaidoyer de bonne foi, et ce n'est pas une image littéraire que nous avons dans les textes de la Bible, c'est réel, existentiel, le juste de la moralité qui va plaider pour l'homme immoral au nom de la charité. Okay? Mais ça vous dirait à quoi? Ça vous dirait à préserver sur terre, à garantir sur terre les civilisations immorales. Et Abraham risquerait cette espèce de paradoxe énorme que lui serait le garant des crimes au nom de la vertu. Est-ce que c'est clair, juste? Mais à quel point un Abraham juif n'est pas chrétien? Vous voyez déjà la limite. C'est évident, je pense maintenant. Et alors, il faut qu'il comprenne cela et qu'il entende cela, que s'il y avait un minimum de justice, la charité pourrait s'employer. Mais il s'agit d'un cas limite où il n'y a pas un minimum de justice, il n'y a pas 10 justes dans la ville, et le chiffre n'est pas que symbolique, il est important. Alors par conséquent, aucune charité ne peut être acceptée, parce que cette charité serait criminelle. Elle serait plus criminelle que le criminel qu'elle veut protéger. Et donc, ce que j'ai expliqué maintenant à travers le texte, c'est comment cette foi d'Abraham mène à la loi de Moïse. Et que les deux choses sont vraies à la fois. Une loi de Moïse qui ne serait pas animée par la foi d'Abraham tomberait dans la légalité. C'est l'échec du sadducéisme. Mais une foi d'Abraham qui ne serait pas concrétisée par la loi de Moïse tomberait aussi dans l'échec. C'est l'échec de la chrétienté. C'est ce que je pense avoir à dire maintenant. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Et alors, nous pouvons le voir dans le texte.